Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er juillet 1992 à Saint-Jodard.
Pourquoi dites-vous que du point de vue de l'intelligibilité, l'un est la négation privation de la division et donc la suppose dans l'intelligence. Pourquoi ne pas dire que l'un est saisi directement et que la multiplicité est saisie comme juxtaposition d'unité et comme négation de l'un? C'est vous qui dites ça. L'un, qu'est-ce qu'il est? C'est ça qu'il faut se poser la question. Dans la position des néoplatoniciens, ça c'est la position des néoplatoniciens. La position des néoplatoniciens dit que l'un est au-dessus de l'être. Bon. Le langage indique l'inverse. C'est bien que le langage n'est qu'un signe. Mais c'est un signe. Et vous dites ceci est un. Vous dites ceci est. Voyez, l'être est un verbe dans le langage. Et l'un est un attribut dans le langage. Tenir compte de ça, ça fait partie de mes expériences. Le langage exprime normalement ce que je pense. Je dis normalement. Alors, je regarde d'abord si le langage est un signe authentique. C'est la première chose. Je regarderai ensuite si ce que dit l'autre peut s'entendre, les néoplatoniciens, parce qu'il y a une tradition de ça, c'est pas... Pour le néoplatonicien, pour Plotin, parce que c'est encore plus net que pour Platon, on peut dire que les néoplatoniciens, c'est Plotin, l'un est au-dessus de l'être, ça c'est sûr, et en disant ça, bon, ils ne respectent pas le langage. Je veux bien très bien qu'on ne respecte pas le langage. Le langage n'est pas un absolu. Le langage exprime, manifeste ce que nous pensons. Il faudrait donc justifier. Alors, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'un. Quand je dis qu'une chose est une, qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis qu'une chose est une, je veux dire qu'elle n'est pas divisée, je crois. Puisque j'ai l'un et le multiple. L'un s'oppose au multiple. Il me semble bien que l'un s'oppose au multiple. Tandis que l'être s'oppose au non-être. Je crois. Si l'un s'oppose au multiple, qu'est-ce que veut dire l'un? Il n'y a pas de division, puisque le multiple implique la division. Dans les différents domaines, dans le domaine quantitatif, vous ajoutez, vous avez un tas de pierres. Ça s'est ajouté à cause de la quantité. Et à cause de la division, ça peut s'ajouter. S'il n'y avait pas de division, ça ne s'ajouterait pas. Dans l'ordre plus spirituel, le multiple peut être au-delà de la quantité. Il peut y avoir, dans ma pensée, raisonnement implique une multiplicité. Et le raisonnement n'est pas premier du présupposé jugement qui implique la dualité. Et qu'est-ce qu'il y a avant? L'appréhension, qui elle est simple. Donc fondamentalement, l'unité est antérieure dans l'ordre de l'intelligibilité à la multiplicité. Génétiquement, c'est sûr, le multiple est avant d'une certaine manière. Puisque tout ce que mon expérience est toujours dans la multiplicité. Oui, retrouvez là deux ordres différents, l'ordre génétique et l'ordre de nature. L'ordre de nature, en sens que dans la critique, vous réduisez le multiple à l'un. Et voyez que tout multiple présuppose ses unités. Dans l'ordre génétique, vous saisissez le multiple avant, puisque toutes vos expériences sont complexes. Il y a une complexité dans la nature, dans la réalité. Et vous faites la comparaison de ce multiple vers l'un, en disant que l'un, justement, n'implique pas cette complexité. Si vous voulez préciser et réfléchir sur ce que c'est que l'un, vous arrivez toujours à dire que l'un, ce qui n'implique pas de division. Et alors, vous dites l'un, ça, c'est premier, mais c'est premier. Montrez-moi que l'un est premier dans votre jugement. Il est premier dans l'ordre de nature par rapport au multiple, c'est sûr. Donc vous voyez, il y a deux points de vue qu'il faut bien distinguer. L'un est le multiple, l'un est l'être. Bon, quand il s'agit de l'un et du multiple, je vois que selon l'ordre génétique, le multiple est antérieur. Toutes vos expériences touchent une réalité complexe. Toujours. Et cependant, en réfléchissant, en analysant, vous voyez que toute multiplicité présuppose une idée. Donc vous avez les deux ordres habituels. Selon l'ordre génétique, le multiple est antérieur. C'est le conditionnement même de ma pensée, ce qui n'est pas étonnant, puisque la connaissance implique une multiplicité. Je ne peux pas avoir une connaissance intellectuelle pure, elle est toujours liée à l'expérience. Et cependant, selon l'ordre de nature, l'un est antérieur. Bon, ça c'est l'un et le multiple. Maintenant on attaque le problème de l'un et de l'être. Vous avez deux grandes positions au point de vue historique qui sont encore actuelles. C'est pas passé ça. Le néoplatonisme n'est pas enterré du tout. Il vit, selon les suffrages universels, bien plus que l'aristotélisme. Selon le suffrage universel, il y a beaucoup plus de néoplatoniciens que d'aristotéliciens. Il y a relativement peu d'aristotéliciens comparativement aux néoplatoniciens. Quand je regarde la fémologie, il y a un fond néoplatonicien. Quand je regarde le structuralisme, il y a un fond néoplatonicien. Et l'aristotélisme C'est-à-dire c'est lui qui a la grosse influence sur toute la pensée contemporaine. Je me souviens de ce bon dominicain qui est mort maintenant, qui était venu me voir à Fribourg. Il me demandait comme ça, sur quoi portez-vous avant tout votre réflexion? Alors je dis, je travaille toujours Aristote. Alors vous n'en sortez pas. Je dis non, je m'enfonce dedans. Alors vous devriez étudier Hegel, parce que c'est toute la pensée. Je dis, je sais bien, mais la pensée contemporaine ne me donne aucun principe.
Saint-Jean avant le petit déjeuner.
il broute tout de suite. Là, il y a quand même quelques petites... Et ça devrait entrer dans nos mœurs, ça. Ah, il y a des jours, on est bien obligé de manger, de prendre son petit déjeuner, en priant très rapidement, en faisant un petit acte d'intelligence. Je suis réveillé, et puis on continue de dormir. Et on prend son petit déjeuner à toute vitesse, parce qu'on doit partir. Bon. Mais normalement, c'est ce qu'on fait. On s'éveille d'abord auprès du Seigneur. C'est l'oraison. Le loup, c'est la conséquence. On est accroupi auprès du Seigneur. On se lève debout devant le Seigneur. C'est très bien. Puis après, on s'assied. Ensuite, troisième moment, le réveil de notre vie végétative. C'est pas si mal comme ordre. C'est un ordre très pensé. C'est l'ordre de la sagesse de Dieu, ça. C'est l'ordre de la sagesse de Dieu. En vrai, donc, tout de suite, dans le je suis, il y a la multiplicité. Et puis, je m'aperçois qu'au-delà de cette multiplicité, il y a quand même une unité. L'esprit, elle vient de quoi? Elle vient de mon être, c'est que je suis. Je suis brillant. Je suis pensant. Je suis mangeant. Et chaque fois, le je suis est plus ou moins profond. Je suis brillant, l'affectivité profonde. Je suis pensant, mon esprit qui s'éveille. Je suis mangeant. Je dis pas que mon esprit s'éteint, mais de temps en temps, la fameuse question, faut-il, peut-on prier en mangeant? Doit-on manger en priant? Non, vous savez bien, la discussion entre un dominicain et un jésuite, savoir si on fume en priant ou si en fumant on peut prier. Et vous voyez, c'est très curieux, ça a l'air de rien, c'est le problème du multiple de l'homme. Radicalement, c'est là. L'un est néoplatonicien et l'autre est aristotélicien. C'est quand même curieux. Même dans les blagues, il y a encore l'aristotélisme et du néoplatonisme. C'est pas étonnant, parce que ça, c'est toute notre vie, ça. Donc, je m'aperçois que pratiquement, qu'est-ce qui est premier dans ma réflexion intellectuelle, c'est le jugement d'existence. Je suis. Ceci est. Ça, c'est radical. Et là, j'ajoute, je suis et je cherche mon unité. Vous ne cherchez pas votre être. Tu vois, moi, je n'ai jamais cherché. Je suis toujours présent. Tandis que je cherche mon unité. Ah oui, surtout certains jours. Quand vous êtes très fatigué, vous cherchez votre unité. Quand c'est effrayant, multiplicité. Reposons-nous un instant pour retrouver notre unité. C'est curieux. C'est un fait, ça. De réflexion. Vous ne cherchez pas votre être. Oui, je sais très bien que pour dire je suis en profondeur, ça exige quand même une petite réflexion, mais le jugement d'existence, là, c'est éteint immédiatement. L'être est plus présent à mon être, à mon intelligence, que l'homme. Donc ça, je ne peux pas le nier si je prends l'expérience dans sa force comme point de départ. Ça me semble net. Pas nier ça. Et ça correspond au langage. Et le langage, à ce point de vue, devient un signe, une confirmation. Alors, pourquoi le néoplatonisme? Il faut que la vérité explique l'erreur. Toujours. Je ne vois pas toujours immédiatement en découvrant la vérité. Je ne vois pas toujours l'erreur. Mais il faut que la vérité, si vraiment la vérité consiste à dire que ce qui que notre intelligence atteint en premier lieu, c'est l'être. Cette fameuse affirmation de saint Thomas, 175 fois dans les œuvres de saint Thomas. Donc saint Thomas y tient. Et c'est une parole d'Avicenne. C'est pas une parole d'Aristote. Or saint Thomas s'est converti à Aristote. Et il a gardé cette parole d'Avicenne. Ce qui prouve qu'il a considéré que cette parole d'Avicenne était vraiment aristotélicienne. Et qu'elle exprime bien quelque chose de très très radical. Primo, cadit in intellectu, ens. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, ce qui est. N'est-il pas là? Le langage, mon expérience, puis en dernier lieu, plan philosophique, l'affirmation de Thomas d'Aquin, qui est intéressante, qui vient me confirmer que c'est bien ça, et qui vient me confirmer doublement, puisque la source c'est Avicenne, et saint Thomas s'est converti à Aristote. Il a gardé la parole d'Avicenne, ce qui prouve que c'est vraiment de l'aristotélisme dans toute sa pureté. Primo cadit in intellectus ens. Une petite plaquette d'une thèse faite à la grégorienne qui a compté, c'est facile comme petit travail, dans toutes les œuvres de saint Thomas, vous regardez cette affirmation qui revient, je crois, 175 fois, 170, quelque chose comme ça. Ça dépasse 170. C'est quand même assez étonnant. Ça devrait y tient. C'est comme un adage, un axiome. Qu'est-ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence? L'intelligence est faite pour ce qui est. Alors, expliquons maintenant comment on arrive à la position néoplatonicienne. Ça, c'est intéressant. Plotin considère parmi ses sources de pensée Platon, le divin Platon. Pour Plotin, Platon est presque la révélation. Je crois que pour Plotin, Platon c'est comme pour nous la Bible. C'est le divin Platon. Ça c'est intéressant parce que c'est une autorité. Simple, on reste devant. intelligible. Donc, il saisit l'être dans une perspective réflexive sur la connaissance, en voyant la dualité, et en précisant que au-delà de la dyade, il y a l'un. Donc, on ne saisit pas immédiatement l'un. J'allais presque dire, on l'affaire. On le pose comme un au-delà de la dyade. Qu'est-ce qui donne premier, en premier lieu, c'est ce que je connais dans une expérience. C'est ce que je connais. Et puis je réfléchis sur ce que je connais et je découvre que la connaissance est toujours, implique toujours une dualité, une complexité. Et donc il faut au-delà de l'intelligible l'un. Ça, c'est le raisonnement de Platon. Platon commande cela tout simplement, sans critiquer. Vous voyez tout de suite, j'espère, la confusion. C'est quand on confond l'être et l'intelligible. On atteint l'être par la connaissance. On considère donc que la connaissance est antérieure à l'être. Plus exactement, l'être détermine la connaissance et il est dans la connaissance. Vous voyez comme c'est proche de la pensée moderne de Heidegger, penser l'être. L'être m'est donné dans la pensée. Pourquoi ? Parce que l'être s'identifie à l'intelligibilité, à ce qui est connu. Penser l'être. Et l'être n'est découvert qu'à travers la pensée. Donc, pas de jugement d'existence. Et ce qu'on saisit en premier lieu, c'est l'expérience interne. Et non pas l'expérience de la réalité qui m'est donnée. Alors, je commence à comprendre. L'expérience interne est première et radicale, et que l'expérience externe n'est que quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur. Si la réalité est premièrement la pensée, le petit déjeuner, hein, le corps est secondaire, tout à fait, c'est le tombeau de l'âme. La réalité, c'est la pensée. Problème très important de l'âme spirituelle et du corps. Et le corps vient de l'extérieur et s'ajoute. La sensation et les sensations s'ajoutent de l'extérieur. Je ne pose pas du tout l'expérience externe première. J'aboutis, vous voyez, exactement comme la position heideggerienne, de considérer que toute la science ne dit rien sur la réalité. Puisque ça regarde le domaine du sensible, le domaine de l'expérience externe. Seule la pensée interne atteint le réel. Et le réel commence avec le cogito. Je pense. Là, je suis dans le réel. Dès que je pense. La réalité extérieure, c'est matériel, c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'il faut saisir. Il y a donc l'erreur initiale qui consiste à considérer que l'expérience interne est première. Alors là, je peux, au nom d'expérience, montrer que c'est faux. Tout est même là, avec j'aime, tu restes en câble premier qui dit que c'est l'intelligence, l'intelligo qui est première. Il dit tout de suite amo Socratem. Donc j'aime quelqu'un, j'aime une réalité. Mais si j'aime une réalité qui est extérieure à moi, il faut bien que je la connaisse. Il y a donc la connaissance de l'autre par l'expérience externe qui est première. Donc voyez, le néoplatonisme et Platon aboutit à dire que ce qui est au-delà de l'être, c'est l'un, parce qu'il s'identifie l'être et ce qui est connu dans l'être. Donc il confonde pensée et être, et en confondant pensée et être, en les unissant, pensée et être, nécessairement la pensée est antérieure à l'être. Si la pensée est intérieure à l'être, l'être n'est plus que relatif à la pensée. Et donc l'être implique quelque chose de relatif et il vient s'ajouter à la pensée. Il y a donc une dualité dans toute expérience interne et cette dualité ne peut pas être première. Elle implique quelque chose avant. Pourquoi la dualité n'est pas première ? Parce que la dualité implique une composition d'éléments. Avant la dualité, il y a l'unité. Donc l'unité est avant l'être. Mais comment apparaît cette vision néoplatonicienne qui s'est imposée? Et aujourd'hui, on voit ça même dans la pensée moderne. Il y a un petit passage où on parle de la manière dont le Saint-Père envisage la découverte de l'existence de Dieu. Et le Saint-Père dit, c'est ce qu'on répète, comme c'est dans un dialogue, on ne sait jamais si c'est bien le Saint-Père, il y a des chances, parce qu'il a dû le relire, en disant qu'il considère que la connaissance interne, l'expérience interne, est plus importante que la connaissance externe. Vous voyez, comme c'est tellement subjectif, le primat de la pensée interne. Le Saint-Père, il l'avoue, du reste, il le reconnaît, que sa première formation a été une formation phénoménologique qui reconnaît le primat de l'expérience interne. Et donc, tout le courant néoplatonicien qui se réintroduit là. Alors, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a considéré toujours au plan théologique que saint Thomas est un maître. Alors il y avait cette rectitude de revenir à Thomas d'Aquin, et en reprenant Thomas d'Aquin, il redécouvre le point de vue du réalisme. Mais on voit bien comment le néoplatonisme est quelque chose qui s'infiltre si fortement dans notre pensée contemporaine. Très difficile de dépasser ça. Parce que c'est le climat dans lequel la plupart des hommes pensent et réfléchissent. Alors ils pensent et ils réfléchissent en étant néoplatoniens. On ferait un petit examen philosophique à l'entrée des frères. Je suis sûr qu'on trouverait 95% de néoplatoniciens. pensée en premier, la pensée considérée avant l'être me conduit à considérer l'être relatif à la pensée. Donc l'être n'est pas premier. Il y a un au-delà de l'être qui est là. Ça me semble historiquement assez net. Réfléchissons un peu plus. Dans la perspective du réalisme de l'être, l'un apparaît comme second. Qu'est-ce que c'est que l'un? La division, c'est la négation de la division. Donc l'un n'est pas, point de vue de la pensée, n'est pas aussi immédiat que l'être. Ceci est. Le ceci disparaît devant l'être. Parce que l'être s'exprime par un verbe et le verbe exprime l'action. Le verbe exprime l'acte, l'actuation. Et donc, il est ce qui détermine fondamentalement ma pensée. Quand je dis ceci est un, j'ajoute l'unité à l'être. Qu'est-ce que j'ajoute à l'être quand je dis ceci est un? J'ajoute que ceci qui pourrait être divisé n'est pas divisé. Il implique l'indivision. L'un, c'est l'indivisé. Donc, c'est la négation de la division. C'est pour ça qu'il n'est pas premier. Il implique par rapport à la raison d'être l'indivision, la négation de la division. La division étant dans notre vie intellectuelle quelque chose de très très fondamental. Nous servons de la division pour mieux connaître la réalité. On divise. Vous voyez, diviser, c'est le point de départ de l'analyse. S'il n'y avait pas de division, il n'y aurait pas d'analyse. La division se fait à des degrés différents, mais toute analyse implique la division. Et ce qui est curieux, vous voyez, en plus de ça, pour vous montrer combien la division est quelque chose de très fondamental à notre intelligence, ça c'est d'ordre critique, aussi bien la pensée dialectique que la pensée analogique se servent l'une et l'autre de la division. Toute pensée dialectique implique la division. Toute pensée analogique implique la division. Donc la division est au-delà de la diversité dialectique et analogique. C'est très étonnant. Tellement c'est fondamental. Comment ça se fait que mon intelligence, pour avancer, a besoin de la division? Diviser pour régner. Ça se voit même en politique. Vous divisez pour régner. L'un représente la force. Quelque chose, c'est une conséquence. Pour être fort, il faut être un. Pour l'unité. L'unité dans sa vie. Dès que vous êtes divisé, vous êtes fragile. Tout de suite. Alors comment ça se fait, ça? Où apparaît la division dans ma connaissance? Elle apparaît tout de suite. Dès le jugement. Puisque le jugement implique un élément avant lui. Tout jugement s'exprime par une énonciation, le nom et le verbe. Il y a donc une composition. S'il y a une composition, ben, il faut nécessairement qu'avant cela, il y ait des éléments simples. Et l'élément simple implique quelque chose qui n'est pas divisé et qui peut s'ajouter à autre. Donc, la division apparaît dans ma vie intellectuelle tout de suite. Pourquoi ? À cause de l'abstraction. Alors, c'est très curieux. L'abstraction est source de l'être de raison, l'universel. Et l'universel, c'est l'un à l'égard du multiple. Vous voyez donc que l'intelligence humaine de l'abstraction secrète l'être de raison. Et cet être de raison, c'est l'universel. Et l'universel n'est pas au niveau de l'être, mais au niveau de l'un et du multiple. Je vois donc que ma connaissance humaine, en raison de sa complexité, implique tout de suite la division. Mais j'allais dire inconsciemment, puisque quand je pense universel, vous êtes incapable de pouvoir vous rappeler à quel moment dans votre vie humaine vous avez pensé universel. Je posais la question à des psychanalystes pour les clouer. Je disais très bien de chercher le premier nœud affectif. Engagez toujours les niveaux, toujours les niveaux. Quellement vous pouvez aller. Je sais pas. Donc, au fond, c'est pas radical quand vous dites que c'est premier le complexe. Il y a avant l'univers. Et le complexe montre que vous êtes dans la division. Donc, dites pas que c'est premier. Vous voyez comme c'est curieux. La négation de la division. C'est pas du tout premier. La négation est un être de raison. Ça n'existe pas dans la réalité, la négation. Vous niez pour montrer que l'intelligence domine. L'âge de la négation, comme disent les psychologues, à 4 ans, paraît-il. Maintenant, comme on est toujours plus avancé, ça doit être 3 ans. Au début du siècle, c'était 4 ans, maintenant c'est 3 ans. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont plus avancés que ceux du début du siècle. Alors ça doit être 3 ans, l'âge de la négation. On nie. Non. Tout de suite, spontanément. Écoute même pas ce qu'on dit, du fait même qu'ils entendent quelque chose. Non. On aime la négation. Parce que ça vient de nous. Dans la négation, il y a un primat subjectif de l'intelligence. L'intelligence est première dans la négation. C'est pour ça qu'on l'aime tellement. Et quelquefois, ça reste toute notre vie. Il y a des vieillards qui sont comme les enfants et disent non, non, non. Parce que toute leur vie, la négation est restée première. Et la négation, c'est l'intelligence qui se ferme à l'autre et qui se replie sur elle-même. Alors vous voyez que l'un implique la négation de la division. L'un, c'est un fruit de l'intelligence. Il n'y a pas d'unité sans l'intelligence. Pas d'unité formelle, précise, sans que l'intelligence ait nié la division. Alors, vous comprenez bien, ça ne veut pas dire que l'un est fabriqué par l'intelligence, pas du tout. L'un s'exprime grâce à l'intelligence. C'est l'intelligence qui exprime l'unité, qui tandis que je ne peux pas dire que l'être est formalisé par l'intelligence. L'être s'impose. C'est toute la différence entre les deux. Alors, si ceci est vraiment la réalité, je comprends très bien que toute philosophie qui commence par le primat de la réflexion sur l'intelligence met l'un au-delà de l'être. Puisque c'est cela qui permet à l'intelligence de dominer. Quand l'intelligence nie, elle domine. Elle se replie sur elle, dans sa capacité, dans son dominium, dans son pouvoir. Elle règne grâce à la division, mon intelligence règne. Et elle rejoint le réel en disant pas de division dans la réalité. Et à ce moment-là, j'affirme l'unité. Et je dis que l'unité est propriété de l'être. C'est-à-dire que partout il y a être, parfaitement être, l'être est indivisible. Là je rejoins le jugement d'existence et je considère que l'unité est propriété de l'être. Quand je dis que l'un est propriété de l'être, vous voyez bien, je suis en face d'une connaissance scientifique. Connaissance scientifique, c'est le fruit de l'intelligence. La connaissance scientifique est le fruit de l'intelligence. La science n'existe en acte et formellement que dans mon intelligence. La science n'existe pas dans la réalité comme science. La science est le fruit de mon intelligence. C'est pour ça qu'il y a toujours une distance, une différence entre la réalité et la science, puisque c'est le fruit de mon intelligence. C'est la différence avec le jugement. Le jugement d'existence adhère à la réalité, et la conclusion scientifique, j'allais dire, enveloppe la réalité. Précise la réalité, elle formalise la réalité, c'est pour ça qu'elle l'enveloppe, tandis que le jugement d'existence adhère à la réalité. Et en affirmant ceci est un, c'est une conclusion scientifique au niveau de la philosophie première, au niveau de l'être. Mais c'est mon intelligence qui a découvert que ce qui est dans la mesure où il est un. Et donc, en disant ça, je montre que la division exprime les limites de l'être. C'est pour ça qu'en Dieu, il n'y a pas de division. Parce que Dieu est infini. La division exprime les limites de l'être. Et c'est pour ça que je me sers de la division pour analyser. Parce que la limite de l'être montre la limite de l'être existant, de tel être existant. Pas la limite de l'être en soi. Mais la limite de l'être existant, de tel être existant, montre qu'il y a dans cette réalité quelque chose qui est inintelligible. Il faut donc l'analyser. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il faut donc l'analyser. Mais au niveau métaphysique, quand je saisis l'être en tant qu'être, je dis que l'être en tant qu'être est toujours un. difficile. Et c'est pour ça que je peux dire que les degrés différents de l'être fondent les degrés différents de l'unité. Il y a un parallélisme entre l'être et l'un. Et à tout degré d'être correspond un degré d'indivision, donc de l'un. Et que plus l'être est imparfait, plus il est complexe. C'est-à-dire, plus il est multiple. Parce que il demande d'être divisé, la potentialité. Mais il y a une autre source de complexité. Il y a deux sources de complexité. C'est ça qui est important à saisir. Il y a deux sources de complexité. Il y a la complexité qui provient de la matière. Il y a la complexité qui provient de la potentialité de l'esprit. Il y a deux sources. Exactement, puisque nous avons saisi qu'il y a deux principes de la réalité. La substance et l'acte. Que la substance se distingue des accidents et que l'acte se distingue de la potentielle, de la puissance. Je peux immédiatement comprendre que la substance va être principe dans la réalité d'unité radicale et fondamentale, tandis que les accidents sont source de multiplicité actuelle dans la réalité. Et que plus l'être en puissance, que l'être matériel se perfectionne, plus il exige la multitude, donc la complexité. À cause de la matière, il faut la complexité pour arriver à perfectionner la matière. Mais ce qui est la constatation du biologiste, plus l'être vivant est parfait, plus il est complexe. La complexité du cerveau. Mais vous voyez, c'est pas un principe. Théard en fait un principe. C'est une propriété. C'est pas un principe. Alors, c'est peut-être une loi. Mais pas un principe philosophique. Puisque c'est la conséquence de la potentialité de la matière qui fait que cette matière doit être divisée pour être actuée. Et donc, elle implique la complexité pour être parfaite. Et l'autre principe d'unité, c'est l'acte. Alors ça, c'est du côté de la finalité. Et l'autre principe de complexité, c'est la puissance. Et ceci